Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va retourner chasser les fantômes avec le frangin de Mario dans Luigi's Mansion 2 sur 3DS et on va se balader dans le Lego version GTA. Enfin bon, c'est un peu rapide de dire ça, mais Lego en monde ouvert, Lego City Undercover sur la Wii U. Et oui, il y a des jeux sur Wii U, c'est déjà la première info. Première info, ah, ça commence bien.
Et il est bien parti, ouais, bah, je le sens bien là aujourd'hui.
Et on va finir avec Year Walk sur iOS, sur iPad et iPhone. Je crois, ou
iPad et iPhone.
Ah oui, parce que ça fait les deux en même temps. Oui,
c'est magique.
Les deux en même temps, c'est magique. Voilà, programme. Bon, voilà, c'est un joli programme déjà. Et je vais commencer en accueillant les deux de mes chroniqueurs favoris que j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir dans Silence on joue. Jean Z de France Info. Bonjour Jean.
Salut.
Et Patrick Elio de Hitphone.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi Jean, avec un retour aux origines.
Oui, avec Batman Arkham, on a des nouvelles de Batman Arkham, et ce sera effectivement Batman Arkham Origins, hein, qui devrait arriver le 25 octobre 2013 sur console et PC, mais cette
et
fois...
Et donc est-ce que c'est un jeu en 2D, en cel shading, avec Batman qui tourne les poings et non, c'est...
Ça je peux pas te répondre ni par l'affirmative, ni par le contraire, c'est-à-dire que...
Comme Rayman, c'est
non,
Rayman,
ça sera,
Batman...
Ça sera pas le Origins,
piste,
ça sera plutôt le côté Batman Begins hein, qu'on va aller regarder, les autres auteurs sont allés s'inspirer du côté de deux comics assez connus. Hein. Ils s'appellent Year One et Legends of the Dark Knight. Mmh. Ceux-là, on les connaît.
On voit les débuts. Enfin, pourquoi Batman et
Year One, Miller, reprend Batman, qui en refait quelque chose.
Est-ce qu'il y aura un côté thatchérien et riganien, je ne sais pas, qui sera conservé. On le saura à la sortie 25 octobre. Ouais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce sera quelques années avant Batman Arkham Asylum, hein, le premier de la série signé Rocksteady. Mais ce ne sera pas signé Rocksteady.
C'est un souci.
Et ça, c'est un vrai souci. Le jeu a été donné au développement par Games Warner Bros. Games Montréal, qui avait porté sur la Wii U l'épisode précédent, Arkham City. Et là, alors, je ne sais pas si on peut...
Et ils avaient fait Prototype 2, non ? Ils n'ont pas ça
Moi, je ne sais pas. C'est possible, je ne sais pas.
Alors, passif plutôt, non ?
Alors, passif.
Pardon, parce que là ce serait très... Déjà, c'était un peu inquiétant. Là, ce serait très inquiétant. Pourquoi ? Parce que c'est un studio, finalement, sans expérience.
Ouais.
Et l'avantage de Rocksteady, c'est qu'ils avaient créé quand même un gameplay qui était formidable. Ouais. À la fin de chaque Batman Arkham, on avait vraiment... C'est rare dans les jeux d'avoir l'impression de savoir manier la manette. C'était complètement illusoire. Ouais. Mais on a une véritable impression de maîtrise de tous les boutons. Ouais. On est bien. Et là, ça passe chez un autre, donc on a un peu peur. Pendant ce temps, Rocksteady... C'est la rumeur qui court, travaillerait sur un Batman, mais version années 50, avec
grande classe.
Grande classe, et plutôt pour les consoles next-gen. En tout cas, bon, voilà, on attend le 25 octobre et une confirmation de si ça va être bien ou pas ce Batman Arkham Origins. En tout cas,
Pour le coup, ça a fait un petit peu peur. Après,
c'est ça. Après, bon.
Voilà. Après, c'est vrai qu'en deux épisodes, hein, Rocksteady a posé les bases. Donc peut-être que pour finir avec cette génération de consoles, ils se disent on peut reprendre exactement les mêmes choses, mettre 2-3 méchants en plus, un environnement urbain différent, et puis où on y va.
Il y en aurait 8 d'ailleurs, il y aurait 8 et demi sur le dos de Batman, donc je pense qu'il va avoir du boulot pour cet épisode futur.
Une belle perf de l'autre côté.
Là aussi beaucoup d'ennemis hein, pour EA Electronic Arts, cette société. Alors chaque année, le site The Consumerist organise l'élection de la pire société US. Je dis bien la pire société US en général.
Ouais.
Hein, on peut mettre Monsanto, on peut mettre Bank of America, on peut mettre NBA, qui n'est visiblement pas très aimé du côté des Américains. Voilà, tout confondu.
Banques, des choses hyper populaires en ce moment. Les banques, c'est
Très très populaire. Ouais. Eh bien, c'est Electronic Arts qui a remporté le Golden Pooh. je ne vous fais pas la traduction qui est un petit peu sale. Donc
et là, on dit GG.
Oui, on dit GG, exactement. Et alors, la particularité, c'est que c'est la deuxième année d'affilée, c'est la première fois de l'histoire de The Consumerist qu'une société gagne ce prix-là. Alors, ça tombe sur le jeu vidéo et sur Electronic Arts. En clair, l'accusé principal, c'est le lancement raté de SimCity et son sabordage, on va dire, hein, l'âme de ce jeu étant partie avec cette nouvelle version. Et puis aussi Crysis 2 et Dead Space 3 qui sont dans la ligne de mire des internautes, je rappelle.
L'année dernière, c'était la fin de Mass Effect 3.
Exactement. Hein,
donc, c'est qui avait valu ça à Electronic Arts, comme quoi les internautes sont des sales trolls.
Disons qu'il y a des coléreux. Voilà, ils n'ont pas beaucoup aimé Electronic Arts, mais quand même Electronic Arts a tenu à répondre en disant n'exagérez pas, on a beaucoup de choses à faire pour se rattraper, on a fait des bêtises, c'est vrai, sur SimCity, sur le lancement, etc. Donc ils l'ont joué plutôt fine, plutôt autodérision, mais en disant bon, faudrait pas non plus exagérer, pire société américaine, hein, y en a d'autres quand même un peu sur les côtés à regarder d'un peu plus près.
Moi ce qui m'énerve sur le SimCity, c'est que j'ai l'impression qu'Electronic Arts, ils ont l'impression qu'on se plaint de SimCity, alors à cause de leur côté always on, internet always on, et puis DRM et lancement raté pour le coup pour cause de serveurs insuffisant, alors que moi mon gros problème c'est pas ça, c'est que une fois qu'il y a des serveurs, le jeu est une bouse infâme et un scandale, le pire scandale des jeux vidéo depuis 10 ans.
C'est-à-dire qu'ils ont confondu SimCity avec les Sims. J'ai rien contre les Sims d'ailleurs,
mais c'est pas les mêmes,
on a voulu faire du jeu facile, du jeu où on gagne tout le temps, et visiblement les internautes n'aiment pas du tout
je ne m'en remets toujours pas. Patrick, toi aussi tu es triste.
On ne s'en remet pas non plus.
Et toi, tu vas voter pour Disney.
Une news bien difficile. Bah, j'ai commencé à jouer, je crois, fin 85. Et si on m'avait dit un jour que je serais derrière ce micro à dire cette news, bah, ça m'aurait fendu le cœur. Parce que c'est tombé juste après la fin de l'enregistrement de la dernière émission. Donc, on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Et bah, c'est la fermeture de LucasArts. LucasArts, c'est quand même un studio mythique du jeu vidéo qui appartenait à tout l'univers de Lucasfilm. Qui a été racheté par Disney il y a quelques mois maintenant pour 4 milliards de dollars, je crois. Et donc voilà, LucasArts, c'était l'entité dédiée jeux vidéo qui vient d'être fermée par Disney. Disney a décidé de le couper, de le fermer. Alors certains, les esprits chagrins diront que finalement LucasArts depuis un moment faisait plus grand chose de bien flamboyant.
C'est un peu ma position.
Peut-être ta position, mais moi je leur répondrais que c'était quand même un nom mythique du jeu vidéo. Moi je me rappelle encore dans mes jeunes années lorsque j'ai vu débouler cet éditeur. C'était un éditeur mythique parce qu'il était justement un de ces pionniers du croisement entre le jeu vidéo et le cinéma. À l'époque en 82, lorsque la boîte est créée, il n'y avait pas de crossover comme ça. Et c'était une de ces premières boîtes qui a commencé à dire on va créer des jeux mais qui s'inspirent de choses du cinéma, qui prennent des licences un peu plus tard, mais aussi de formes de narration. Il y avait vraiment une volonté d'aller dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est une marque mythique. On en a déjà parlé ici plusieurs fois, parce que c'est LucasArts, évidemment, le jeu d'aventure. Il y a eu un âge d'or LucasArts dans les années fin 80, début 90, avec les fameux point and click maison, hein, Maniac Mansion, on en a parlé, Zach McCracken aussi, qui est pour moi un de leurs joyaux chez eux, Monkey Island, Dev's Tentacle, enfin voilà, il y a vraiment eu un âge d'or chez LucasArts, Lucasfilm Game plutôt au début, hein, c'était le premier nom de cette division jeux vidéo. Évidemment un attachement à cette marque pour moi, mais aussi pas mal de joueurs qui ont vraiment passé pas mal de temps sur leur jeu.
Attention, je ne dis pas le contraire, hein, l'attachement est réel.
Alors évidemment, donc fermeture, qui dit fermeture, donc on parle quand même de 150 personnes qui seraient mises à la porte, hein.
Ils ont abandonné, et deux projets sont gelés.
Pour l'instant seraient a priori gelés, ils seront peut-être repris un jour par quelqu'un d'autre. Il y a donc le Star Wars 1313 qui avait déjà eu quelques présentations, je crois le 3 dernier si je dis pas de bêtises, et puis un Star Wars First Assault. Donc voilà, évidemment un des problèmes de LucasArts, c'est que depuis 10-15 ans, on ne faisait que du Star Wars. Et malheureusement, c'était un des travers...
Que du Star Wars, et encore, les bons Star Wars étaient repris par BioWare.
Étaient rares, mais en fait, c'était confié en externe déjà. Et pour moi, les meilleurs jeux LucasArts, il y a eu des bons Star Wars, mais les meilleurs jeux LucasArts, pour moi, ils datent, parce que c'était l'époque où il y avait des créations d'univers chez LucasArts, tous les jeux d'aventure dont on en a parlé.
D'ailleurs, il y avait un Star Wars Rogue Leader, c'était sur SNES, non
Sur GameCube.
C'était GameCube qui était magistral.
Il y a eu des bons Star Wars, il y a eu vraiment toute une histoire derrière. Et puis il y avait une tradition. C'est vrai que tous les jeux LucasArts c'était pas bon, loin de là, mais il y avait une tradition. On disait c'est un jeu qui s'inscrit dans un univers, dans une imagerie, ça va marcher ou pas, mais on suit à ça qu'intérêt. Bah, c'est fini. Voilà, donc maintenant, il y aura encore des jeux Star Wars, attention, mais qui seront confiés à des studios
Moi, j'avoue que j'ai pas versé de larmes. Par exemple, aujourd'hui, si Telltale fermait, je pleurerais beaucoup.
Mais Telltale est un enfant de LucasArts.
Mais oui,
parce qu'il y a beaucoup de gens de Telltale qui viennent d'une division.
On pleurera peut-être au prochain Star Wars au cinéma. Ne vous ne soyez pas impatients.
D'ailleurs, moi, j'y pense là maintenant. Il y a aussi la news de la prochaine licence récupérée par Telltale.
Oui,
c'est Fable. Fable,
exactement.
Et ça, c'est une très putain d'excellente nouvelle. Ouais. S'ils arrivent à faire un truc basé sur le loup, basé sur donc ce détective privé hein, de l'univers des fables.
L'héro, ouais.
Donc on rappelle, un fable, c'est un univers où les fables ont été expulsés de leur univers fantastique et tout ça, et récupèrent un quartier à New York et sont parmi les humains.
Un bon potentiel.
Voilà. Et donc il y a le loup qui est le loup des fables, qui est un peu l'enquêteur, qui est devenu un humain et un peu le détective, un peu bourru, un peu voilà, qui serait un peu a priori le héros de
saga gigantesque hein. Enfin,
saga ils en sont à 130 numéros, 130 singles,
ça fait
presque une dizaine d'années.
Sera certainement du point and click narratif comme ils savent très bien le faire chez Telltale, et c'est une bonne note d'espoir parce que c'est vrai que LucasArts s'éteint, mais voilà, il y a des gens qui ont repris derrière l'esprit, et voilà, il y a peut-être à chercher chez des gens comme Telltale, effectivement.
Il faut partir, il faut rebondir sur
mais c'est dur parce qu'on a quand même
quelle belle leçon.
Voilà,
alors le com des com de la semaine dernière, c'était une émission spéciale BioShock Infinite. Je voudrais d'abord m'excuser pour les fautes d'accent incroyables que j'ai fait en début d'émission. Je me suis un peu rattrapé après. Mais
Infinite.
Oh, non mais c'était Infinite. Enfin, je sais pas. Je devais pas avoir dormi de la nuit, ce qui n'est pas impossible. Enfin bref, nous on avait trouvé ça très très bien. Tu n'étais pas là la semaine dernière, mais
c'est plus que bien. Donc
voilà,
c'est grand.
C'est grand.
Voilà. T'as des étoiles dans les yeux quand tu en parles.
Donc c'est pour ça que j'ai.
Et aller jusqu'au bout. Vraiment, c'est le bout du bout qui révélera le joyau.
Là, c'est un des soucis qu'on avait
et la grande œuvre.
On n'avait pas tous suivi.
Voilà, donc j'ai pris des commentaires de gens qui n'avaient pas aimé. Hein, voilà, comme ça.
Le jeu ou l'émission?
Le jeu.
D'accord.
Le jeu. Non, mais l'émission. C'est l'émission, quoi. faut pas déconner non plus. Power Mugen, pour moi, BioShock Infinite est vraiment un jeu moyen qui capitalise uniquement sur les acquis de la série sans rien apporter à part un scénario un peu simpliste à base de failles spatio-temporelles ou la facilité scénaristique. Un jeu ennuyeux dont le gameplay est faible ou nul et dessert la narration qui est pourtant la seule chose intéressante du jeu. Et alors il continue, il développe et il conclut dans Rapture. J'avais eu peur, j'avais été émerveillé, j'avais été bluffé par la technique. Ici je me suis ennuyé et j'ai rushé le jeu pour connaître la fin. Vedante qui fait aussi une petite remarque qui moi m'a fait rire, c'est Booker DeWitt passion poubelle. Tout un niveau de jeu se passe dans une banque. Mais non, les gens préfèrent stocker leur épargne dans les poubelles. Donc c'est un détail. Hein,
c'est vrai qu'on passe son temps.
Mais je trouve que c'est vraiment dommage.
Depuis, je fouille beaucoup de poubelles.
On fouille beaucoup de choses tout le temps. Ouais.
Mais je trouve vraiment dommage quand tout est fait pour rendre l'univers crédible. Donc de faire un niveau dans
c'est
une banque où il y a, où y a des sous dans les poubelles. Enfin, le tyran qui pose la question qui fâche en ce moment. Et sinon, je voudrais pas faire mon chieur. Mais il n'y a pas une émission qui devait être enregistrée chaque mois en public et qui a disparu des écrans radar. Ah. Voilà, y a des fois on est un tout petit peu trop ambitieux vis-à-vis du nombre d'heures qu'on a par semaine consacrées à l'organisation de choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, je me suis fait un peu dépasser par les événements. On devait retourner à la Gaieté Lyrique régulièrement, de façon mensuelle ou presque. Et c'est vrai que voilà, depuis janvier, où on avait accueilli les gens de Dontnod pour une très bonne émission par ailleurs, je suis un peu en galère, un peu en manque de temps pour organiser tout ça. Je désespère pas, mais je pense que le côté mensuel, on va oublier.
Entre parenthèses, pour l'instant.
Voilà, voilà. Peut-être que si un jour, on passe à temps plein sur Silence on joue,
exclusivement sur Silence on joue, ça sera peut-être plus simple.
On fera toutes les semaines en public.
Tous les jours.
Voilà, c'était le com des com de la semaine dernière et aujourd'hui et maintenant, on va chasser des fantômes.
Ha ha ha!
Luigi's Mansion 2 sur 3DS, la suite d'un Luigi's Mansion qui avait été sur la line-up de départ de la je dis là d'abord.
Oui, oui, la GameCube.
La GameCube, donc en 2002.
Deux en France, ouais.
Ah oui, deux en France. Ah oui, deux en France. Oui, oui, c'était encore l'époque où il y avait encore des gros retards.
Oui, il y avait des petits décalages.
Ah bon, encore, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais voilà, c'était en 2002 en France. Donc, jeu qui était sorti, qui avait, c'était un jeu, donc le frangin de Mario, qui devient le héros de son propre jeu. Jeu de, un peu basé sur les systèmes d'épouvante. On a un aspirateur, un peu façon Ghostbusters. Et on va chasser les fantômes dans un manoir hanté. Alors à l'époque, on était à la recherche de Mario. Ouais, et là, en fait, on vient en aide à un peu un chercheur fou.
Catastrophe, il s'appelle.
Voilà,
hein,
Catastrophe.
Il parle bien son nom.
Oui, parce que alors vous comprenez. Alors je fais le pitch, hein, parce que comme ça, je
vas-y,
vous
vas-y, déroule,
de
déroule,
faire
vas-y,
le pitch.
Vas-y, vas-y.
Les fantômes, ils étaient sympas. Hein. Les fantômes de la vallée des fantômes, ils étaient sympas. Alors c'est pas la vallée des fantômes, c'est la vallée d'autre chose, je sais plus trop quoi. Et en fait, c'était des fantômes cool, on le voit.
Ouais,
hein,
ils sont bien intégrés.
Ouais, ils sont bien intégrés.
Ils sont polis.
Jusqu'au jour où eh bien l'étoile qui était au-dessus de la vallée, eh ben elle part en plein de fragments, et là quand il n'y a plus l'étoile, eh ben les fantômes deviennent méchants, vils et mesquins, et faut se mettre à faire n'importe quoi, et donc Luigi est appelé en renfort et il va devoir rechercher des fragments d'étoiles. J'ai juste l'impression que c'est une constante, hein, de chercher des fragments d'étoiles. Je crois que dans Paper Mario 3DS c'était aussi ça, il fallait aller chercher des fragments d'étoiles, comme quoi c'est peut-être le point commun. Je ne sais plus.
Un choix de vie, quoi.
Ouais, un choix de vie. Allez, chercher des fragments d'étoiles. Donc, en fait, on retrouve, voilà, le système, la lampe torche, l'aspirateur. C'était les éléments de gameplay de Luigi's Mansion sur GameCube. Et c'est les éléments de gameplay de Luigi's Mansion 2. Vos impressions, Jean, voilà, comment t'es rentré dedans? Comment t'as.
Excellente impression. Bah, la musique joue effectivement bien son rôle dans ce manoir, hein, parce que c'est un manoir qu'on va visiter, hein, pour la première aventure, hein, pour les premières aventures. Une légère épouvante, voilà, bon, ça nous fera pas flipper, plus les gamins, il y a des moments de tension, on va dire.
Le niveau de chasse aux araignées avec où il faut attraper toutes les toiles d'araignées, j'étais pas d'une sérénité absolue, mais bon,
non,
parenthèse que je
retiens. On est un peu comme Luigi, on est un petit peu pas serein, et la musique aide beaucoup à cette inquiétude permanente, beaucoup d'inquiétude. C'est extrêmement bien mis en scène, les couleurs, le choix des lumières. Il y a effectivement un hommage au film d'épouvante, mais on va dire de film d'épouvante à l'ancienne, hein, les années 50-60, hein, on est plutôt sur l'âge d'or. Moi j'adore Luigi, c'est-à-dire qu'il est un véritable froussard, donc en plus en prime il va être face à ces fantômes extrêmement colorés, parfois joyeux, hein, extrêmement déconneurs.
Ah, ils sont sympas,
mais enfin ils font quand même.
Moi, franchement, mes passages préférés, c'est quand on les espionne, tu sais, soit par la fenêtre, soit par les trous dans les murs.
Il y a des jeux d'acteurs
et on voit une scène avec des fantômes qui se mettent à faire n'importe quoi, et c'est tout le temps très drôle, très bien mis en scène, enfin, un côté cinéma muet.
Exactement.
Comme ça, qui est vachement bien là-dessus.
Oui, beaucoup d'exploration, hein, on passe son temps à explorer, hein, parce que je crois que il ne saute pas, voilà, c'était l'un des ordres sur le gameplay, hein, voilà, l'un des commandements, il ne doit pas sauter comme son frère Mario, donc il reste à marcher comme ça ou à courir. Donc beaucoup d'exploration, une 3D qui fonctionne plutôt bien. Moi, je me surprends à la mettre de temps en temps, même si ce n'est qu'à moitié sur la 3DS, mais
ouais,
elle est vachement agréable.
Ouais, elle est agréable, on la met à moitié. Après, il y a toujours, c'est toujours le gros problème des jeux avec la 3D relief, c'est quand on utilise le gyroscope pour regarder dans les coins. Là, si on a la 3D activée, ça devient n'importe quoi. Enfin, c'est marrant, hein, dans les jeux, il y a toujours ces deux trucs qui sont complètement incompatibles et que les gens mettent ensemble. Enfin, voilà.
Et voilà, bon, je trouve que c'est un excellent jeu vraiment d'exploration, de découverte, d'aventure. Pas si simple, hein, quand on a des boss, non. Quand ils viennent à plusieurs, on peut souffrir. Voilà le vrai défaut, moi je dirais, du jeu, c'est que quand on meurt, eh bien, faut se retaper toute la mission.
Ouais.
Voilà. Alors aujourd'hui, on est habitué, mal habitué, vous me direz, on est des sales gosses pourri gâtés, mais on est habitué à la dernière sauvegarde qui date d'il y a quelques secondes. Donc voilà, on n'a pas. Non, il faut se retaper toute la mission. Donc ceci dit, ça met un enjeu à l'ancienne. Hein, il y a une espèce de difficulté comme ça. Et les boss sont pas si simples avoir, à aspirer. Mais vraiment, l'univers est génial. C'est joyeux. C'est vraiment ludique dans le sens Nintendo. Je trouve que Nintendo retrouve un petit peu ce. Et puis il y a de l'aventure. C'est assez long quand même. Il faut se rappeler de l'épisode GameCube. ouais. court, hein. Ça durait 4-5 heures à l'époque.
Un manoir.
Et c'était fini, hein. Donc vraiment, on l'achetait très cher. Et puis on y jouait très peu. Là, c'est pas le cas. Vraiment un excellent épisode, malgré cette, on va dire, sauvegarde quand on meurt un petit peu difficile.
Mm-hmm. Patrick.
Alors, je suis d'accord sur la difficulté. C'est vrai que très vite, mais le jeu est bien conçu. C'est-à-dire que, parce que quand on débute, on se rend compte qu'on a pas mal de choses à gérer dans son équipement. On a plusieurs lampes, etc. Mais on retrouve là aussi la patte Nintendo, c'est-à-dire qu'on apprend tout doucement les différents pouvoirs, les différentes choses à faire, et ça marche bien. Alors, c'est vrai que Luigi Mansion, moi j'avais un attachement au premier, c'était mon premier jeu GameCube, j'avais pris que ma GameCube, donc évidemment on s'attache, mais pour moi c'est même du rétro gaming, hein, parce que ça fait déjà 11 ans, 10 ans.
Moi je préférais Wave Race.
Ah non, moi j'étais Luigi Mansion. Ouais. C'était pour moi, il y avait vraiment ce côté horrifique, il y avait vraiment... il avait une touche, ce jeu. Et alors j'ai rebranché ma GameCube, hein. J'ai relancé mon jeu et ah ouais, et là en voyant le jeu sur GameCube et sur la 3DS, on se dit ah quand même il y a un vrai gap et on se rend compte de la finition qu'il y a sur le jeu 3DS, sur les animations, parce que c'est vrai on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un souvenir souvent un peu idéalisé du jeu.
Ah mais souvent on disait ça, c'est-à-dire que en fait
on regarde des souvenirs,
des vieux jeux vidéo, ils sont toujours en HD. Tes souvenirs de jeux, ils sont
toujours
en HD.
On les a HDisés.
On les a HDisés.
On les passe à la moulinette.
Et on les a dépolygonisés. C'est-à-dire qu'ils
sont magnifiques.
Ils sont magnifiques, ils sont ronds et tout ça. Oui. Et c'est vrai que tout le temps, ça fait mal.
Il y a un brouillard autour dans l'image, on y repense. En tout cas, voilà, pour dire que cette version 3DS, elle est beaucoup plus belle. Quand on la voit tourner, on se dit, mais c'est hallucinant. Surtout, pour moi, le point fort, ce sont les animations des personnages. Je trouve que le Luigi, il est à mourir de rire quand il a vraiment des mouvements très fluides, très bien foutus. On a vraiment l'impression de voir un film d'animation parfois. Je trouve qu'au niveau des couleurs, Jean, tu en parlais, c'est vrai que c'est très coloré, c'est très bien mis en scène. Et moi, je trouve que la 3D est bien utilisée dans ce côté un peu carton, décor, on a l'impression un peu de les voir se plier, se déplier quand on avance dans les niveaux. Enfin, c'est vraiment, il y a un vrai effet de profondeur. Ce qui est fort, je trouve, c'est d'avoir gardé quand même les fondamentaux du jeu Luigi Mansion d'époque. Faut se rappeler que la base du gameplay, c'était une espèce de jeu de pêche à la ligne. Il fallait attraper les fantômes dans sa lampe et les tirer dans le sens inverse lorsqu'on arrivait à les choper dans son aspirateur. Ça, c'est toujours là. Ouais. On a toujours ça. Mais alors, ça avait été décrit à l'époque sur le premier Luigi Mansion où on avait dit bon bah finalement le gameplay est assez simpliste, on en fait vite le tour, et comme tu disais il est assez court, c'est vrai que le jeu on le finissait vite. Là on sent qu'il y a eu une volonté de rendre le jeu plus épais, il y a plus de pouvoir, on sent que la difficulté est plus élevée comme tu disais, c'est important, et il y a aussi une grande fragmentation du jeu, il y a plus de niveaux, on n'est pas sur un seul manoir mais sur plusieurs choses, plusieurs endroits à explorer, et on sent que le jeu a été mieux fractionné, mieux équilibré, et moi je trouve que ça marche vraiment très bien.
Au risque de la répétitivité, hein, parce qu'on en revient souvent dans ce manoir, voilà, certains pourront se lasser, moi je trouve qu'il n'y a pas de lassitude, il y a même encore un plaisir à y revenir, à se dire bon, j'ai loupé un fragment, j'ai loupé un ceci, un cela, mais ils prennent aussi ce risque-là de la répétition.
Ouais, mais cette capacité de revenir dans certains niveaux et de pouvoir débloquer de nouvelles choses, ça aussi je crois que c'était nouveau, je ne crois pas qu'on avait ça dans le premier, dans mon souvenir, et on sent que c'est mieux équilibré, bon il y a quand même eu 11 ans de différence entre les deux, donc
il y a eu le temps.
C'est un petit peu logique, mais en tout cas voilà, il y a une vraie performance je trouve en termes de visuel, on parlait de Castlevania il y a quelques semaines, que moi je situais comme un des plus beaux jeux 3DS. Et bah Luigi, je trouve qu'il se défend vraiment très très bien visuellement, graphiquement. Il est en termes d'animation,
y a vraiment une grande cohérence dans ce Luigi's Mansion. Enfin, et une cohérence de gameplay. Tu dis, il saute pas, mais finalement tout s'actionne vachement bien. Ouais. On est rarement frustré. Bon, après moi, il y a toujours cette histoire de stick droit que des fois on se dit, ce serait aussi assez simple d'avoir.
Lever et baisser la lampe, c'est ça.
La mettre à gauche à droite. On avait cette possibilité là de
plus fluide,
fluide, mais bon voilà, on n'a pas, c'est pas grave,
et les super effets de lumière d'ailleurs, hein, quand
les
on pointe la lampe torche, on a des ombres, on a
la mise en scène comme tu le disais, souvent des petites animations inédites qui débarquent sans prévenir. Moi j'aime beaucoup la phase la phase de combat comme tu le disais, hein, Patrick, est assez classique, voilà, on éblouit d'abord,
on attrape,
on fige les fantômes, d'ailleurs on les fait apparaître, hein, des fois, parce que quand il n'y a pas de lumière,
ils sont protégés avec des lunettes de soleil,
plus ça va,
ça c'est bien foutu, ça, qu'il y a une évolution de la difficulté vraiment,
et une fois que les fantômes sont figés, on sort l'aspirateur et puis là on leur fait descendre les points de vie petit à petit,
c'est le mode le plus facile, parce qu'il y a la fameuse lampe colorée, donc il n'envoie que des couleurs là, qui ajoute une couche de gameplay vraiment intéressante, avec notamment une espèce de bubble, un fantôme tout rond là,
et
alors lui il est est vraiment dur à choper. Lui, il est vraiment dur à choper. Vraiment, c'est vraiment une vraie. C'est super. Hein. C'est une vraie difficulté. Il est mais retors parce qu'on a que cette lumière là et il faut vraiment le figer dans la couleur. Mais là, c'est là, une simple lumière ne l'a pas. Et là,
chaud,
et là, on galère. Il faut tourner autour. Mais c'est. Mais tant mieux. J'allais dire tant mieux qu'il y ait aussi. C'est sûr.
Ah bah oui, c'est une évolution. Bah, de toute façon, c'est là où Nintendo est très fort. Hein, c'est de gérer l'évolution de ses difficultés au fur et à mesure des niveaux. Et c'est vraiment du savoir-faire là qui
moi, le truc qui me fait vraiment rire, c'est les mimiques de Luigi qu'on connaît pas si bien que ça. Luigi, finalement, il est toujours au second plan dans les jeux. Il est derrière Mario tout le temps.
Ah bah là, et là, il est toujours froussard. Là, c'est pour ça qu'on l'aime. Il y va, mais
vraiment,
il est quand même
un jeu sur les mimiques, sur les gestuels. Des fois, il sifflote comme dans le premier, un peu le thème de la musique. On sent qu'il est pas serein du tout quand il reçoit des ordres de son professeur. Enfin, on voit qu'il est en stress tout le temps et c'est vraiment rigolo.
Non, mais je trouve que pour les gosses, pour tout le monde, c'est vraiment un jeu qui est extrêmement réussi.
Ouais.
Je veux dire, ça peut plaire aux grands, ça peut plaire aux petits, ça peut se partager en famille. Enfin, je trouve que là-dessus, là encore, Nintendo montre que bah, ce savoir-faire-là, ils l'ont. Hein, ils l'ont et ils l'ont encore.
Il y a peut-être une version à voir sur Wii U. C'est peut-être un concept qui pourrait être adapté sur Wii U.
Ah,
avec
ça fait déjà partie des Nintendo Land,
des meilleurs jeux
sur Nintendo Land.
Non, mais je vois pour scanner une pièce, etc. Bah, je pense qu'il y a des choses à faire.
Non, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une licence qui n'est pas si forte que ça. Parce qu'il y avait vraiment un jeu sur GameCube. Il y a 12 ans, hein, comme 11 ou 12 ans. Et il y a leur savoir-faire Nintendo sur une licence, sur un univers qui n'est pas usé jusqu'à plus possible, comme certains Mario. Même s'ils restent excellents, hein, les New Super Mario sont absolument magiques. Mais ça reste un peu du déjà vu. Et là, il y a une licence qui n'est pas moisie. Enfin, non, ils ne sont jamais moisies, les jeux Nintendo.
Et puis c'est quand même une longue aventure. Enfin, mine de rien, c'est quand même une longue aventure. Enfin, on en a pour son argent. Hein, si certains ou certaines veulent regarder la durée de vie.
Et du multijoueur, on passe
son temps. Ouais.
Vous avez essayé le multijoueur?
Non, j'ai pas encore eu le temps. Je suis à fond sur le solo. Là,
c'est vraiment le trip Ghostbuster, je crois, qu'on peut à 4 avec les. On va essayer.
Il y a des mots clés.
Hashtag.
Luigi's Mansion 2 sur. C'était Luigi's Mansion 2 sur 3DS. Et maintenant, on va faire un tour dans la ville des Lego.
And what brings you to Lego City, young lady?
This boat.
Oh, triple patch. Have no fear. This is Chase McKay.
I should be looking for Rex Fury.
You two, stop it!
Lego City Undercover, que dire? On commence, on arrive dans la ville des Lego. Dans un gros bateau, dans un cargo. Ceux qui n'ont pas saisi la référence à GTA 4 lèvent la main.
C'est la première.
La première d'une très grande série. On incarne Chase McCain. Chase McCain, flic parti en exil suite à une faute professionnelle un peu dangereuse sur une ancienne affaire qu'on va découvrir au fur et à mesure.
Il y a des zones d'ombre. Hein,
il y a des zones d'ombre dans son histoire, mais voilà, il revient un peu en héros car son némésis, Rex Fury est sorti et s'est évadé de prison sur une tondeuse à moteur, c'est ça, ou quelque chose dans le genre.
Ça me semble naturel. Étonnement.
et donc il va retrouver Natalia, la femme de sa vie. Mais d'abord, il va falloir remonter les échelons de la police de Lego City. Il va falloir retrouver ses marques dans le commissariat et puis suivre les enquêtes, poursuivre les méchants clowns, récupérer des indices un peu partout. On est sur un jeu de la licence Lego, c'est une licence qui cartonne, qui est vraiment très très bonne d'une manière générale, un niveau moyen excellent. On va rappeler Lego Star Wars, Indiana Jones, Batman, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, plusieurs épisodes par licence, j'ai cités. Et enfin, on adaptait Lego à des grosses licences existantes. Lego City Undercover, c'est la première fois à ma connaissance où il n'y a pas de grosses licences de films, en tout cas dans les jeux récents.
Oui, récents, il y a eu des jeux très très mauvais il y a très longtemps.
Ouais,
mais qui
ont voilà.
disparu du
radar. Là, il n'y a pas de licence réelle, mais finalement, c'est tout le cinéma et le jeu vidéo qui se retrouve injecté dans Lego City Undercover parce qu'on est submergé de références toutes les minutes, toutes les deux minutes, au détour d'une ligne de dialogue, au détour d'une scène cinématique, au détour même d'un seul personnage, d'une réplique. C'est une référence à un film, à un jeu vidéo, à ce genre de choses. Voilà, c'est sur Wii U. C'est peut-être le côté le plus surprenant de l'affaire, hein, un jeu aussi important sur
une exclu, ouais,
sur une console. Voilà, ouais, non, mais c'est bien, c'est très très bien. Patrick, alors.
Ouais. Alors surprenant, c'est vrai que moi je le regardais depuis un petit moment, je surveillais du coin de l'œil ce jeu parce que c'est vrai qu'il y avait une promesse de GTA-like dans l'univers Lego. Alors. Comme tu disais, il y a toute une histoire Lego. Il y a eu des très bons titres ces dernières années. Alors moi, j'ai toujours eu, à titre perso, un frein sur le côté hybride des univers entre les jouets Lego et les mélanger avec l'univers Batman, DC Comics ou Harry Potter ou Indiana Jones, même si c'était des bons jeux. Hein, la trilogie Indiana Jones dans le même jeu était très bien foutue. Moi, j'ai toujours eu un problème sur ce côté hybride de mixer des univers qui, bon... ça collait moyennement, pour moi en tout cas. Et je trouve finalement une des forces de ce titre, une des premières forces, c'est de s'assumer complètement en tant que de jeu Lego et de complètement partir sur un univers cohérent Lego. C'est-à-dire que tout le monde, les références sont uniquement cinématographiques, etc., mais sont beaucoup moins. Sont des références plus subtiles que ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Alors. Je pense que voilà, c'est pas un jeu qu'il faut aborder comme un GTA 5 killer, évidemment, c'est pas du tout le but. Je pense qu'il faut vraiment. Il faut vraiment l'aborder.
Enfin, quoique,
hein. Il faut vraiment l'aborder comme une évolution des jeux Lego qu'on a connus jusqu'ici, qui étaient beaucoup plus linéaires, avec des systèmes de niveaux qui se suivaient, etc. Là, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent et c'est beaucoup plus ambitieux ici de proposer un monde ouvert où on peut. Alors,
sauf peut-être le dernier. Effectivement, je crois que c'était sur DC Comics, hein, sur là où ils avaient essayé.
Comment ça,
déjà, ils avaient déjà fait le monde ouvert, donc voilà, c'était la première tentative pour Lego de.
Et moi, ça, j'avoue que c'était le Batman 2, hein, c'était Lego,
oui,
Batman 2
avec
les disques. Et il y avait cette qualité d'écriture et cet humour incroyable qu'on retrouve directement dans cette.
Alors que là, comme tu disais, on a des références toutes les 5 minutes. Moi, j'ai craqué dès les premières minutes. Il y a clairement une référence à Miami Vice. On voit les deux flics de deux flics à Miami qui passent sur un coin d'écran. C'est très subtil parfois. Ouais. Colombo qui passe. Enfin voilà, on a.
Colombo, Dirty Harry, Starkey Hutch.
C'est une des
Missions
grandes
forces,
je pense, de ce titre, c'est qu'on peut y jouer avec des enfants qui vont triper sur le côté Lego, parce qu'on retrouve, c'est une vraie gamme de jeux Lego qui existe, hein, Lego City, qui existe en magasin, etc. Mais c'est ponctué à la référence que nous, on va capter, parce qu'on connaît les séries des années 80 ou les grands films, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, plusieurs niveaux de lecture dans le même jeu, et c'est plutôt intéressant. Après, il y a le gameplay, et moi, j'ai vraiment sombré, c'est-à-dire que j'ai lancé en me disant bon je vais voir ce que ça donne, je vais commencer à, et je trouve que le rythme du jeu est vraiment bien équilibré entre un monde global ouvert et puis des missions qui se retrouvent finalement dans des missions plus fermées comme on avait sur les précédents jeux. Quand on lance une mission en tant que telle, on est plus dans des univers fermés, et finalement ça marche super bien parce qu'on se rend compte que on enchaîne les niveaux, les missions en suivant un scénario qui est finalement plutôt accrochant, je trouve, accrocheur. On se prend au jeu de ce personnage qui essaie de se démener et d'explorer cette ville qui est plutôt grande, qui a un mix de plusieurs villes d'ailleurs. On a beaucoup de San Francisco, on a un peu de New York dans cette ville qui mixe plusieurs environnements, qui est plutôt diversifiée, qui est très vivante. Quand on se balade dans les rues, on se dit tiens, il se passe mal de choses, on voit pas mal de personnages, pas mal de gens qui parlent. C'est pas du bricolage, c'est une vraie ville qu'on sent travailler. C'est assez surprenant à ce niveau-là. Je trouve que c'est. Et puis on a des dizaines de véhicules et ça va très loin parce qu'on a les voitures, on a des motos, des avions, des hélicoptères. Enfin,
des trottinettes.
C'est impressionnant parce qu'on pouvait craindre un GTA un peu léger, un GTA-like un peu léger. Et finalement, on se rend compte que le jeu est ambitieux et il va franchement. Et je trouve qu'il a du répondant, même pour un gamer, entre guillemets, qui est. voilà, qui va enchaîner l'émission.
Ah, mais carrément.
Et moi, j'en suis à une bonne dizaine d'heures bien tassées et je m'éclate avec. Et je suis même pris de collectionnite, m'a récupéré toutes les pièces dès que je peux dans l'émission, casser les briques. Enfin, on se retrouve, on a 5 ans et on collectionne toutes les pièces, quoi. C'est. Je dirais pas que je suis allé voir un magasin de jouets ce week-end pour voir si je retrouvais les mêmes maisons, etc. Mais j'en suis pas loin.
Jean.
Ah, pareil, bon, pareil, voilà. Mais c'est vrai, la qualité d'écriture des dialogues et souvent des mini-séquences, ça dure pas très longtemps, des cinématiques. C'est fugace. Mais c'est tellement drôle. Puis ils font des visages, ils ont des mimiques, mais tellement incroyables. Il y a vraiment une autodérision permanente. Là où ça rejoint vraiment GTA, parce qu'il faut quand même, c'est un vrai GTA-like. Donc, du coup, d'entrée, on prend la caisse et puis on fonce sur les gens, parce que c'est un réflexe, on y va comme ça, voyons qu'est-ce qu'ils font sur le bas-côté. Et effectivement, ils crient, ils hurlent, ils se mettent de côté, on peut pas les tuer, évidemment. Mais voilà, ils sont là, c'est un jeu pour enfants. Là où ça rejoint vraiment GTA, c'est que les bagnoles sont assez peu maniables, hein. Il faut quand même dire que dans les GTA, c'est des boîtes à savon, hein. Donc, voilà, c'est assez voitures, horrible. Là aussi, c'est pareil, c'est assez horrible. Mais
je pense que les voitures Lego à manipuler sont pas non plus.
Non, puis voilà, il y a vraiment, l'univers est réussi, tout est assez cohérent dans l'incohérence la plus générale. Ça fourmille effectivement de références à la mythologie américaine et à la mythologie et des films noirs américains, ou des séries d'ailleurs, puisqu'ils y vont aussi, et du jeu vidéo également dont ils se servent. On se dit, mais quelle richesse pour les gosses et les plus grandes d'avoir ce jeu-là. C'est extrêmement riche. Alors, on peut le prendre, on peut rusher, hein, on peut s'éclater comme ça, c'est très amusant, il y a plein de missions. Mais quand on commence à fouiner, à fouiller, c'est vraiment génial. Et puis vraiment, c'est ponctué de dialogues, d'autodérision, comme je disais, c'est superbement écrit.
Des galeries de personnages.
Ah, mais
aussi,
c'est ciselé au niveau du dialogue. Moi, c'est rare. Enfin, moi, je le jeu vidéo, finalement, le jeu vidéo et l'humour, sauf sur des cas très très précis de jeux basés là-dessus. Voilà, c'est jamais la grande éclate, les grands fous rires, quoi.
Alors que là,
franchement, mais moi, j'ai eu vraiment la banane pendant toutes mes parties.
Exactement.
Et à me dire et à le dire tout haut, mais qu'ils sont cons.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, le collègue,
c'est pas possible.
Le collègue débile.
Ah, mais ils sont tous un peu
con,
hein. Je veux dire.
Chef de police. Mais on est sur des grands stéréotypes de personnages, de films d'action, de films policiers, des grandes références tout le temps, partout. Et comme au jeu vidéo, hein, on a du Mirror's Edge ou du Metal Gear Solid ou du GTA 4. Enfin, l'arrivée, le début,
ouais,
est quand même incroyable,
c'est
quoi. Enfin, le début, on arrive sur un paquebot et puis on voit la ville arriver. Et
ce qui est bien, c'est que l'univers reste cohérent. C'est pas au chausse-pied, là. Les clins d'œil sont pas à regarder. On a un gros clin d'œil. Je trouve que c'est plutôt
l'impression de folie, quoi.
Il y a un côté,
qu'il y a pas de limite.
Il
n'y a pas non plus de limite. Bon, ok, on a une ville, on a un machin, on a un flic qui revient, qui doit se moment.
Et c'est pour ça qu'on a.
Il a un peu sa rédemption. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bah, allez, on fait tout n'importe quoi. On revoit tout. Allez, on sort les séries.
Qu'est-ce que c'est fou? Qu'est-ce que c'est drôle? Enfin, vraiment. Enfin, moi, je me répète, mais c'est un vrai plaisir. Alors, le truc, c'est que le scénario principal, la trame principale est très bien rythmée. C'est des petites missions, c'est très intense. C'est pas.
Il y a certaines qui sont assez.
Hyper difficile, mais en même temps, il y a suffisamment de challenge pour se creuser la tête à 2-3 endroits, fabriquer des Lego, fabriquer des trucs pour passer des
énigmes. Bon, c'est léger, mais il y a des énigmes.
Non, il y a des petits trucs sympas, beaucoup d'exploration. C'est une des forces de la phase Lego. C'est vu que je sais pas ce que ça donne au niveau développeur, mais j'ai l'impression que le fait de faire des univers avec des briques de Lego, ça simplifie aussi pas mal de choses au niveau du design. Et donc, du coup, ils ont des univers très larges, très grands, avec plein de choses destructibles partout. Enfin, il y a vraiment une impression de choses vivantes.
Il a cette qualité qu'ont les grands jeux qui ont un monde ouvert. Et finalement, ils sont assez rares, hein, pour les noter. C'est-à-dire qu'on peut se balader. On se surprend à se balader sans aucune raison ou sans aucun but, en se disant tiens, je vais aller voir par là, allez, je prends une bagnole, ça arrive quand même. Je me suis dit, je n'ai pas suivi la mission principale et je suis allé me balader, voir à quoi ça ressemblait,
et les petites missions à débloquer aussi, des tas de choses.
Alors c'est peut-être pas du niveau ce n'est pas du niveau de GTA, mais enfin il y a quand même parfois cette impression là
mais vraiment une excellente surprise. On va quand même un peu parler de l'utilisation de la tablette. C'est sur Wii U, c'est pas pour rien. C'est plutôt malin,
la carte,
après c'est plutôt malin, mais accessoire aussi, enfin voilà, on n'est pas encore sur une utilisation magistrale de la tablette.
C'est dommage de pas avoir pu proposer un mode deux joueurs par exemple, avec un joueur joueur qui serait sur la télé, le deuxième sur la tablette. Ça aurait pu être possible. Ouais. C'est dommage que ça n'existe pas.
C'est
principalement pour scanner l'environnement et regarder la carte.
Ce qui était déjà.
C'est du déjà vu. Ça montre aussi encore que c'est toujours compliqué. Hein. On propose des choses aux développeurs, mais alors les développeurs ils regardent ça et disent mais j'en ai pas besoin. Et ça donne un peu cette impression là. C'est-à-dire que tout ce que propose la tablette finalement pourrait être déporté sur la télé d'une manière.
En même temps,
c'est
toujours la qualité d'alléger l'écran principal, de pas avoir la carte, le truc, tout ce qu'on a sur le.
Mais ce qui est léger quand même pour le, ça, ce qui est léger. Censé être le truc ouais, un peu tuant de la nouvelle console quoi. Enfin c'est un peu le truc important. De la nouvelle console,
c'est sûr que sur c'est le double écran hein, de la DS avec cette fois un grand écran puis un plus petit dans les mains, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais ce qui est assez bizarre aussi, puisqu'on parle de cette tablette, c'est qu'on a des gens comme DICE qui font le moteur graphique Frostbite 3, Frostbite 3, et qui disent ah bah non, bah on va pas développer sur la Wii U, non mais vous nous prenez pour qui? Enfin genre, et on parlait de Batman Arkham Origins qui sera sur Wii U. Enfin, ça leur pose pas la moitié du premier souci de se dire que c'est possible, et on aura évidemment l'inventaire classique. J'imagine, on va pouvoir scanner l'environnement. Rien de révolutionnaire, mais on l'aura quand même. Donc c'est là où moi j'ai quand même une petite incompréhension sur ce refus de développer sur Wii U, même si ça n'apporte pas grand chose. Ça apporte quand même parfois des trucs sympas, voilà, ne serait-ce que de regarder son écran, la carte, etc.
Et
de pas aller vers un menu, etc.
C'est un titre
mais vraiment c'est c'est aussi voilà une belle exclusivité Wii U.
C'est une excellente surprise
enfin, moi j'arrête pas je vais encore le répéter pour la 8e fois, mais qu'est-ce que j'ai rigolé.
On peut switcher de personnage aussi, enfin de capacité, on développe des capacités qui sont intéressantes.
C'est un jeu où il y a une vraie profondeur de gameplay hein. Comme dans tous les Lego, on détruit et on reconstruit, c'est la base du truc. Mais il y a les phases acrobatiques comme ils appellent, façon Mirror Edge, en vue non subjective, sont plutôt bien, enfin c'est malin quoi, où on est au-dessus des immeubles avec on glisse, on saute par-dessus des obstacles, une question de rythme, enfin voilà, c'est plutôt très très bien.
Une bonne VF.
Une bonne VF. Oui, on a entendu le son en VO dans la bande-annonce. Et c'est vrai, tu as raison de le signaler.
Et bien foutu.
Très bonne traduction aussi.
C'est important,
très bonne
ça,
VF,
que pour un jeu qui s'adresse aussi aux plus jeunes, c'est important.
C'est toujours très très important. Voilà, c'était Lego City Undercover. On va accueillir maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net, qui s'est rendu compte ce mercredi matin, il était à Orly. Il s'est rendu compte, zut, je n'ai pas envoyé la chronique à Silence on Joue. Et donc, moi, je me suis souvenu. Zut, j'avais à l'occasion, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce numéro spécial musique de jeu, je n'avais pas passé de chronique de Monsieur Fall et il m'en avait envoyé une, donc en fait on en avait une en réserve et donc c'est celle qu'on va passer aujourd'hui. Bonjour Monsieur Fall, donc Monsieur Fall de TrickTrack.net, bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine j'ai décidé de faire dans l'égoïsme pur. Je vais vous parler d'un jeu qui correspond exactement à tout ce que j'aime, c'est-à-dire de l'intelligence pure, quasiment pas de hasard, de la réflexion et surtout des cubes en bois. Ce jeu répond au nom de Keyflower, c'est un jeu signé Sébastien Blidel, c'est Richard Brise, c'est édité en français par Gigamic, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. On est dans du lourd, mais du lourd léger, vous allez voir, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement simple, c'est du jeu à l'allemande avec de la gestion et des ressources. Vous allez à votre tour faire une action au choix parmi une ou deux possibles, c'est-à-dire poser des petits personnages, c'est un jeu de pose de bonhomme, de meeple. Vous allez déclencher des actions ou vous luttez pour récupérer certaines tuiles avec une espèce de genre d'enchère que vous allez pouvoir faire. Bref, l'idée, et ce qui est absolument excellent dans Keyflower, c'est que les parties vont toutes être différentes, et c'est pour ça qu'il va y avoir de la réflexion en tout cas quand vous allez lancer la partie, puisque vous allez répartir des tuiles qui vont vous proposer des actions, et en fonction de ces tuiles, vu qu'elles sont différentes à chaque partie, vous allez devoir analyser ce qui risque de se produire, ce dont vous avez besoin pour élaborer une stratégie à court et moyen terme. Parce qu'il va y avoir 4 phases qui vont se dérouler pendant la partie, juste 4, et à chaque phase on va tirer de nouvelles tuiles. Vous ne savez pas trop ce qui va arriver, mais vous pouvez avoir de petites idées. Enfin bref, un jeu casse-neurone, très plaisant, très fluide, très simple dans la technique que vous allez mettre en place pour pouvoir jouer, mais un peu plus complexe dans les tenants et les aboutissants qui va vous faire fondre vos neurones. Je vous répète, c'est un jeu d'opportunisme pur, donc c'est exactement tout ce que j'aime. Je vous rappelle le nom, Keyflower, Sébastien Blidels et Richard Brise. C'est un jeu édité en français par Gigamic. Il n'y a pas écrit Gigamic sur la boîte parce qu'ils ont passé, c'est avec des partenariats étrangers, hein. marqué Ocean Friends dessus, mais c'est Gigami qui le distribue. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 à 120 minutes si vous êtes très nombreux. Le matériel vous coûtera aux alentours de 45 €. Il y a du bois à l'intérieur, des tuiles en carton bien épais, enfin bref, tout ce qui fait le jeu à l'allemande moderne, comme j'aime dire, le jeu que j'aime moi. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de l'incontournable site de référence sur les jeux de plateau, tricktrack.net. Et c'est l'heure de la minute culturelle, celle de Marmotte19, qui vous fait tant peur chaque semaine.
C'est un peu Luigi's Mansion 3, c'est quoi? C'est sur les jeux Lego, sur...
Pas du tout, c'est alors ces façons chercher l'intrus donc dans plusieurs questions. Donc parmi les jeux suivants, lequel ne fait pas partie, je sens que vous allez aimer, de la série Tales of de Namco, alors Tales of Eternia, Tales of Hearts, Tales of Terranigma et Tales of the Abyss.
Hearts, le cœur, qu'est-ce que fait le cœur là-dedans? Non, je dis ça, ouais, moi je l'ai un peu.
Eh bien alors...
J'ai dit Eternia, mais...
Et non, et en fait c'est Tales of Eternia est sorti sur PlayStation PSP, Tales of Hearts est sorti sur DS, et Tales of the Abyss est sorti sur PS2 et 3DS, et donc ils font partie de la série des Tales of. Il n'existe donc pas de Tales of Terranigma, mais seulement Terranigma
sur Super NES.
Qui est sorti sur Super Nintendo, mais effectivement,
dommage, d'ailleurs.
Édité par Enix et développé par Quintet, qui fait partie de la fabuleuse trilogie Soul Blazer et Illusion of Time et Terranigma. Voilà. Deuxième question, quel personnage ne fait pas partie des survivants jouables dans Left 4 Dead 2? Alors, Nick, Zoé, Ellis ou Coach?
Pardon, je devrais pas rire. Je devrais essayer de répondre. Mais
je dirais Coach.
Et non, en fait, il fallait éliminer Zoé, qui était un des personnages principaux de Left 4 Dead 1. Le quatrième survivant de Left 4 Dead 2 est Rochelle. Et oui, il faut le savoir. Parmi les îles suivantes, laquelle n'est pas mentionnée dans Monkey Island 2? Laquelle n'est pas mentionnée? L'île de Booty, l'île de Fat, l'île de Pinky et l'île de Scab.
Scab? Alors, c'est toujours tendu sur les Monkey Island.
Et bien en fait, l'île de Pinky ne fait pas partie de Monkey Island 2. Par contre, l'histoire prend en partie fin sur l'île de Dinky. Voilà, oui,
c'est oui, ruse, piège.
Piège. It's a trap. Et enfin, dernière question, parce qu'il y a une deuxième série, mais je la garde pour la semaine prochaine.
Oui, mais vaut mieux.
Épargne-nous.
L'écrivain de science-fiction. c'est une douleur à chaque fois.
De plus en plus. Alors, où on vieillit et ça marche plus. Je trouve qu'avant, on se démenait mieux. Maintenant,
c'est
le niveau est monté aussi.
Je trouve que le niveau est monté.
C'est vachement.
L'écrivain de science-fiction Orson Scott Card a participé à la création des titres suivants, sauf un. Lequel? The Secret of Monkey Island, Loom, The Dig ou Dave the Tentacle?
C'est un piège, évidemment. Tu peux nous le dire, c'est un piège ou pas?
C'est un piège, non, il y a 4 jeux, il n'a pas participé
non,
à un.
Si c'est de la science-fiction...
C'est l'écrivain quand même, Orson Scott Card, c'est pas n'importe qui.
Monkey Island, ça m'étonne sur Monkey Island.
Eh bien, en fait, il a écrit les répliques du célèbre duel d'insultes sur Monkey Island.
Banco.
Il a aidé Sarah Reader dans la réécriture des dialogues de Loom pour sa sortie sur CD-ROM. Et il s'est chargé de l'écriture de The Dig. Il n'a donc pas œuvré sur Day of the Tentacle.
Honte à lui, d'ailleurs.
Non, mais il aurait pu. Ça aurait fait un meilleur jeu. Parce que
le jeu était déjà très
bien. En l'état, c'est vraiment pas terrible, Day of the Tentacle.
Erwan, pas aujourd'hui. C'est indécent. Ça manque un peu de décence aujourd'hui. La semaine prochaine, si tu veux, mais pas aujourd'hui.
Allez, on va finir rapidement avec... on a le temps. Avec Airwalk sur iOS. Thank you. Firewall que sur iOS. Si j'étais un petit peu cynique et rien qu'en écoutant cette musique, je dirais, je décrirais Firewall, que sans y avoir joué, parce que je n'ai pas, comme un jeu en noir et blanc, un poil nostalgique avec beaucoup de mélancolie et un peu stylisé, on dirait du point and click à énigme, avec un, voilà, un côté un petit peu dark, une sorte de peut-être de caricature de jeu indé. Non, mais je rigole. Je...
Non, tu es pas loin, mais c'est quand même pas ça. Effectivement, c'est une revisite du jeu énigme. Je parlerais bien de revisite du jeu à énigme. Bah, c'est un peu comme quand on a un FPS sur console de salon et qu'on est BioShock Infinite et qu'on se dit comment on peut réinventer ça, comment on peut y retoucher en le réinventant, en y amenant quelque chose de nouveau. Et là, ça amène vraiment quelque chose de nouveau. Yerwok, en fait, ça se base sur le folklore suédois. Ça a réellement une énorme importance. Et dans ce folklore suédois, il y a une légende qui dit que chaque année, enfin le soir du nouvel an, les hommes doivent partir au moins une fois dans leur vie, doivent partir pour un an de voyage dans les steppes, pour s'essayer eux-mêmes à la vie, à la grande vie et à la nature, et pour redécouvrir un peu le futur et peut-être un peu d'eux-mêmes au passage. Et donc, Yerwok va s'inspirer de ce folklore suédois pour nous amener dans effectivement jeu à énigmes. Pas de menu pause. Le jeu, attention, c'est autour de 3-4 euros pour iPhone et iPad. Le jeu démarre tout de suite. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dedans, c'est-à-dire que si vous vous dites, moi je vais essayer 5 minutes, puis après je le relancerai, non, il n'y a pas de reboot. Il n'y a pas de reboot possible.
Ah d'accord, il n'y a pas de sauvegarde.
Ça part et il y a la sauvegarde, et si, il la tient, mais il n'y a pas de menu. Donc pas de menu, pas de pause. On fonce, on en a pour à peu près 2 heures. Mieux vaut avoir un petit stylo et un petit bout de papier à côté de soi. Et on va se balader un petit peu comme avec des diapos très graphiques, un peu animés, très graphiques, dans une espèce de forêt enneigée. Au début un peu inquiétante, mais pas trop, on n'entend pas, ça se joue beaucoup sur le son, donc on va passer d'une diapo à une autre. Si on veut aller à gauche, on va à gauche, si on veut aller tout droit, on va tout droit, enfin on fait le signe vers le bas, et on avance un peu comme ça vers la forêt où on va rencontrer des énigmes, etc. C'est passionnant parce qu'on est complètement dans le flou, mais alors vraiment au départ, mais qu'est-ce que c'est? C'est très beau, la musique est superbe, vraiment ce travail sur le son est admirable. On se dit mais qu'est-ce que c'est? Puis on veut quand même savoir, etc. Et ils ont eu l'excellente idée, l'éditeur a eu l'excellente idée d'accompagner ce jeu payant par une application gratuite, ce qu'on appelle une companion app, et sur Yerwok Companion, et qui va expliciter, l'application est tout en anglais, tout ce qu'on va rencontrer du folklore suédois et nous raconter le folklore suédois et finalement ce qu'on est en train de vivre, en train de résoudre ces mystères qui peuvent être des énigmes visuelles mais aussi des énigmes sonores, musicales, et c'est réellement, on est porté tout à coup par ce jeu qui dépasse de loin le jeu à énigmes. Voilà, on était parti d'un jeu à énigmes, on se retrouve vraiment dans un truc inconnu.
Le Yerwok Companion est uniquement en anglais.
Uniquement en anglais, mais ça fait office d'encyclopédie. Ouais. Et surtout pour résoudre et comprendre certains mystères, notamment le mystère final, vraiment on en a besoin. Et puis ça devient passionnant. C'est-à-dire que ce folklore devient une vraie matière à enrichir le jeu, à enrichir le jeu lui-même. Donc vraiment, moi c'était vraiment une grande surprise. Ça aurait pu être une caricature entre guillemets de jeu indé. Je comprends bien ce que tu veux dire, Erwan.
En plus, je suis le premier à adorer ce type de jeu. Oui. C'est vrai qu'il y a un côté sur la musique mélancolique comme ça, enfin un espèce de côté qui une tendance.
Il y a une tendance, c'est vrai, mais cet appui du et ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est cet appui du folklore suédois qu'on ne connaît absolument pas. Enfin bon, la plupart, voilà, on est dans le grand inconnu. Et le
fait il y a Thor, Loki, Odin.
Oui, c'est ça, voilà.
c'est pas dans la Suède, enfin bon, c'est par là, quoi. Ouais.
et puis aussi ce parti pris de dire on démarre et puis vous n'avez pas le choix. Vous êtes comme le personnage, vous lancez, vous êtes un Yerwalker, c'est-à-dire que vous allez être jeté la nuit du Nouvel An dehors, et puis va affronter les sorcières de la forêt, va affronter ces énigmes-là, les énigmes de ta vie, et voilà, t'es un peu comme ça. Et vraiment, c'est pas hypnotique, mais presque. Et puis surtout, c'est assez retors au niveau des énigmes, quand même, si ça dure que 2-3 heures. Ça fait plaisir de reprendre un bon vieux bout de papier et de se dire, mais attends, voilà, j'ai vu ce symbole, mais je l'ai revu là-bas, comment je peux réussir à avancer. Et puis il y a des monstres très originaux dans le design, enfin vraiment, c'est une petite chose, mais très très riche. Et
elle a eu un bon impact, enfin les sorties donc fin février, je crois.
Exactement.
Très bon accueil, enfin voilà, c'était vraiment une plébiscité.
J'espère d'ailleurs qu'elle arrivera très vite sur d'autres supports que iOS, parce que
moi aussi pour le coup
parce que c'est vraiment une très très belle découverte, en tout cas pour le jeu énigme qui commence effectivement à être un peu redondant sur les systèmes tactiles, là on a une véritable imagination création, une véritable invention, tout ça basé sur le passé avec véritablement un historique. C'est là où c'est
vraiment
sympa.
Et le côté multi-app est intéressant, je trouve. Hein.
Oui,
c'est quelque chose à explorer, je pense. Hein. Enfin, c'est
vraiment le companion app est génial parce que d'un coup, on redécouvre, on se dit ben non, mais enfin, ça va être accessoire parce que c'est ce qu'on se dit au départ. On dit bon, moi, de toute façon, c'est gratuit, je vais le télécharger. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que tous les symboles qu'on a pu croiser, d'un coup, on les retrouve. Ah oui, c'est ça. Ouais. Là, on est en train de on dévore d'un côté une encyclopédie. Donc, je trouve ça vraiment très très malin, très très bien pensé, très artistique. Bref, voilà, si vous aimez ce genre d'application et de jeu,
donc
n'hésitez pas.
Ça s'appelle Year Walk sur iOS, donc iPad et iPhone.
On a testé sur le site. Hein,
et il y a le test hein. Sur iPhone.fr. Voilà, c'est fini avec cette semaine, avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Jean?
Je regarde The Hour. The Hour, c'est malgré mon mauvais accent anglais, qui est une série anglaise, produite par la BBC.
Et la saison 2 ou...
Et la saison 2 a démarré en anglais. Bien sûr, on en est au cinquième épisode.
Bon, moi, j'ai toujours Black Mirror à rattraper aussi.
Ouais. Et donc, on va aller au début des années 50, on va aller au milieu, au beau milieu, d'une toute nouvelle émission, une heure sur l'actualité. À l'époque, c'était incroyable. Et puis, surtout, à l'époque, on avait vraiment la guerre froide, une actualité extrêmement chaude. Et comment on se débrouille avec le politique, comment le journaliste se débrouille, justement, avec cette matière extrêmement chaude, le politique, un peu d'espionnage. C'est extrêmement bien joué. Il y a évidemment ce langage très anglais, cette patte anglaise qui est extraordinaire. Et puis des questions qui se posent encore sur le journalisme, la démocratie, comment informer, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça doit être le poil à gratter? On se pose beaucoup la question en ce moment, comme quoi ces questions reviennent sans cesse. Comment être le poil à gratter d'une démocratie et poser les bonnes questions? Eh ben, c'est une série qui la pose. La saison 1 vient de sortir, je crois, ou il y a quelques semaines en DVD. Donc, si vous voulez la découvrir, elle est passée sur Arte. Et la saison 2, donc, a démarré en Angleterre. Ça s'appelle The Hour. Et c'est vraiment génial.
Très bonne nouvelle. Moi,
tu valides.
Je vais la regarder. Oui. J'allais dire autre chose, mais je vais trouver un moyen de regarder sur la BBC. Ouais, voilà. Je vais aller à Londres.
Voilà.
Patrick.
C'est amusant. Moi aussi, j'étais dans le domaine de la presse dans les années 50. Je suis tombé sur une pépite sur le câble cette semaine. Un film de Billy Wilder qui s'appelle Le Gouffre aux Chimères avec Kirk Douglas. Un bijou que je connaissais pas du tout. Je crois qu'il est pas très connu. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu en vidéo. J'ai chopé sur le câble. Alors, c'est vrai qu'on connaît plutôt Billy Wilder pour ses comédies. C'est
là, temps de réflexion, La Garçonnière.
Voilà,
tout ça,
plutôt
quelques films noirs à son actif aussi.
Je ne sais plus. Je sais plus ce qu'il a fait comme film noir.
Non,
comme
mais
ça.
Effectivement, il est plus.
Mais voilà, on le connaît principalement pour ses comédies. Et alors là, non, on est vraiment sur une critique. On suit Kirk Douglas, qui est donc journaliste, qui est envoyé dans un patelin pour faire un reportage tout moisi sur les serpents locaux. Enfin, c'est complètement inintéressant. Il tombe sur un accident. Un type qui est au fond d'un gouffre et il va évidemment essayer de monter ça en épingle, de monter ça sur plusieurs jours, de créer un événement journalistique autour de ça. Et évidemment, il va avoir une note salée à payer parce que voilà, ça va être une tragédie, parce que voilà, le type aurait pu être sauvé en 12 heures et lui va tout faire pour monter la sauce. C'est que ça se passe longtemps. Je vous raconte pas la fin, mais c'est somptueux. Enfin, le Kirk Douglas magnifique et réalisation impeccable. Et puis vraiment des questions sur le métier de journalisme, sur comment on traite l'info, sur comment la réception de l'info par le public. Très très intéressant. C'est un film que je connaissais pas du tout et que je recommande pour ceux qui peuvent le voir. Voilà, Le Gouffre aux Chimères.
C'était pas un manchot, hein, Billy Wilder.
Bah non, franchement, non, c'est clair et net. Et dans plusieurs domaines en plus.
Ouais. Moi, j'ai découvert avec grand, grand plaisir The Killing. J'étais passé à côté et j'ai découvert un peu du jour au lendemain comme ça. Tiens, il y a une série 2011-2012. Il existe deux saisons de 13 épisodes. Beaucoup de gens m'en disent du bien, notamment sur des sites genre Sens Critique, pour ne pas le nommer. Et très très grosse claque, on retrouve de l'univers de Twin Peaks, hein. Enfin, ça fait énormément penser à Twin Peaks, le côté l'adolescente morte, il va falloir trouver qui est le coupable, et puis ce truc à ramification, les premiers détails qu'on trouve, hein, les fausses pistes, les gens étranges, c'est incroyable et énorme, et beaucoup plus réaliste. Là, on est dans le réel, hein, par rapport à Twin Peaks, on tombe très vite dans l'onirique et le fantastique. Là, on est vraiment dans le réel. Il pleut à Seattle, et donc il pleut dans The Killing. Et franchement, là, je suis sur la toute fin de la première saison. très deux personnages principaux, deux inspecteurs, une nana qui est sur le départ, qui doit changer de ville, de carrière, de vie, et un mec qui vient des stupes à la crime. C'est les deux, les personnages sont très bien décrits, et franchement voilà, très très excellente surprise. Ils sont en train de rigoler en se montrant.
Non, je plus sois sur The Killing, vraiment.
Non, t'écoutes, mais Jean montrait la filmo de Wilder.
Oui, et la liste des films noirs.
Assurance sur la mort, complètement zappé.
Assurance sur la mort, Boulevard du Crépuscule. Bon, c'est-à-dire, genre, ça fait.
Il y a du matos.
Genre, en film noir, il y a du matos. Et The Killing, en parlant de série noire, c'est vraiment incroyable.
Alors, je sais pas ce que donne la saison 2, j'en sais rien.
Moi, j'ai pas entendu.
Mais elle est finie, hein, elle est complète. Et franchement, voilà, une grosse claque. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, The Killing, c'est une série sur AMC, ceux qui font Breaking Bad aussi, comme quoi. Hein, c'est vraiment un très bon network en ce moment. Voilà, bah, c'est fini, c'était bien.
C'était bien, c'est fini, on espère.
De notre côté en tout cas, c'était pas mal. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.